des livres plein les oreilles.
Bonjour mes amis dévoreurs de livres. Oui, c'est le mot dévoreur qui m'est venu à l'esprit comme ça spontanément. Vous allez sans doute comprendre pourquoi dans quelques minutes. C'est Clotilde Say qui vous parle. Nous sommes dans le studio de Canal M, bien sûr, à Montréal. C'est l'émission des livres plein les oreilles qui commence. Pour vous en mettre plein les oreilles, des titres, si vous n'avez plus d'idées, si vous ne savez plus quoi aller chercher, eh bien, nous sommes là justement pour vous. Aujourd'hui, des rubriques que vous connaissez bien. On commencera par parler avec Huguette Roussel, qui est une personne non-voyante, qui va nous parler de Broadchurch. Ensuite, je reçois, et elle est déjà en studio, je vais d'ailleurs déjà la saluer, José Di Stasio.
Bonjour Clotilde.
Bonjour José. Et puis ensuite, il y aura une chronique sur ma table de chevet. Il y aura la bande-annonce pour la semaine prochaine, alors que je vais recevoir Roxane Bouchard. Il y aura une chronique des nouvelles et des livres. Il sera question aujourd'hui de Paul Auster, qui vient de nous pondre une brique, mes enfants, de plus de 1000 pages. Alors on se replongera dans l'univers audio adapté des livres de Paul Auster. Et on finira, bien sûr, par quelques titres en rafale qu'il me fera plaisir de vous proposer. Bonjour Huguette.
Bonjour.
Comment allons-nous?
Bien, nous allons très bien, comme d'habitude.
Comme d'habitude, avec toujours cette bonne voix dynamique que vous avez, Huguette, et que j'adore. Huguette, aujourd'hui, je suis particulièrement contente de votre choix. J'aimerais d'ailleurs vous laisser le soin, peut-être, de nous présenter cela.
Bien, j'ai choisi, avec votre assistance, parce que je manquais d'inspiration en ce moment-là, Broadchurch, qui était diffusé à Radio-Canada en vidéo
aussi.
Description.
Oui. Ah oui, parce que c'est ça que je vous avais demandé à l'époque. Est-ce qu'il était vraiment diffusé en vidéo description ou pas? Parce que sinon, donc, vous l'avez vu d'abord?
Je l'ai vu et je l'ai lu ensuite.
Bon.
C'était diffusé en deux tomes.
Oui.
En deux saisons.
Oui.
Et le livre n'a qu'un tome, en fait. C'est pas du tout pareil.
Ah, OK.
La première auteure, c'est Irene Kelly.
Oui.
Elle est vraiment l'auteur et Chris Chibnall est le scénariste pour la télévision.
OK.
Donc, les deux auteurs étaient identifiés dans au niveau de la présentation du livre.
D'accord.
Et ça se passe dans un petit patelin, dans Broadchurch, évidemment, une petite ville.
Oui.
Et on ne suppose pas que les gens ne se connaissent à ce point-là.
Mm-hmm. Chacun vit beaucoup chez soi, quoi, c'est
chez
ça.
Hein? Oui. Chez soi ou sur la plage quand c'est le temps. Là.
Mm-hmm.
Mais il y a des maisons mobiles, il y a un petit environnement, des maisons assez... il y a l'air à faire beau là-bas. En tout cas, on ne parle pas de temps mystérieux, des grosses tempêtes. Pas dans le livre, en tout cas.
Mm-hmm.
Ça a l'air...
Petite pas... cité touristique côtière, mais petite, là. On n'est pas en Angleterre, c'est ça?
Non, on parle de Londres, donc je présume qu'on
c'est
est de Londres, à proximité de Londres.
Ah oui, ça roule à gauche, je me souviens très, très bien.
En ça, la vidéo description, je ne me souviens pas.
Mais c'est pour ça que moi, je vous le précise, ça roule à gauche.
Ça roule à gauche. Donc, ça se passe, on se réveille, c'est Danny qui s'en va.
Mm-hmm.
Pour aller sur la plage ou à l'école. Bref, il n'entre pas à la maison, il revient pas. Donc, ses parents paniquent parce que normalement, il devrait être là. Il est parti, on ne sait pas où. Et tout à coup, on se rend compte qu'il est étendu par terre sur le bord de la plage. Donc, qui l'a tué?
Oui, c'est ça. Évidemment, c'est au départ une histoire, un thriller au départ. Là, ça, c'est certain.
Au départ, oui. Donc, c'est certain que la dernière personne, c'est celle que je n'ai jamais soupçonnée.
Oui. C'est ça qui est bien. Puis alors ça, il ne faut surtout rien dire, là.
Non, ne vous inquiétez pas.
D'accord. Ah non, parce que vraiment... parce qu'évidemment, on les passe tous, hein.
À la moindre petite personne qu'on rencontre, c'est sûrement elle, parce qu'on décrit qu'est-ce qu'elle aurait pu faire avec Danny. Donc, c'est vraiment... Mais la policière est intime avec la famille, donc c'est...
Oui, en plus.
C'est compliqué parce qu'elle ne sait pas trop quelle attitude prendre. Est-ce qu'elle va trouver un coupable, qu'elle ne trouve pas. Donc,
oui.
Puis le policier, il est un peu le chef qui a pris sa place au niveau de la promotion qu'elle devait
avoir.
Oui,
c'est ça. Elle est frue. Hein? Elle est frue pas mal. Parce que le bonhomme... puis en plus, on sent très rapidement que... Ouh, il cache quelque chose, lui. Il va pas bien dans sa tête. Ça va pas bien dans sa tête
et physiquement non plus.
Non, c'est ça, exactement.
Parce qu'il angoisse, il fait des crises de panique, il tombe évanoui, il va à l'hôpital. Ouais. Il n'est pas bien du tout pour avoir ce poste-là.
Ce qui me permet de dire, Huguette, êtes-vous d'accord avec moi? Je ne sais pas comment c'est représenté dans le livre et je voudrais que vous me le disiez. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans cette série-là, ce sont justement beaucoup les personnages.
Ben, les personnages sont très bien campés, je trouve.
Ah oui, oui. Ils sont différents.
Oui, puis c'est drôle parce que quand quand je lisais le livre, j'entendais la voix comme la voix de Suzanne qui est assez particulière. J'entendais sa voix en même temps à la télé. Ça chevauchait les deux choses en même temps, les deux voix.
Est-ce que vous l'écoutiez en français?
En français, oui.
Ah d'accord. Parce que moi, je l'ai écouté en VO, évidemment, parce que j'avais mes yeux pour voir les sous-titres, parce que sinon, en anglais, j'ai un petit peu de mal à suivre, surtout avec le British.
Oh boy, ben moi, en anglais, je me débrouille un petit peu légèrement, mais enfin, c'est...
Oui,
oui. En anglais, pas très fort pour suivre des émissions, surtout avec l'accent de l'anglais.
Ouais. Oui, non, c'est pas... Bah, quoi qu'on n'est pas dans Shakespeare, mais enfin, c'est pas évident, effectivement. Merci. Dites-moi, entre le... ce que vous avez vu, la série et le bouquin. Parce que souvent, il y en a qui aiment plus l'un que l'autre. Vous, quel est votre avis?
Je ne sais pas encore, parce que le bouquin est allé plus vite que la série, évidemment, parce que c'était diffusé en deux parties. Donc, j'ai trouvé que ça allait vite au niveau du bouquin. Je me dis, bon, d'où on dirait qu'il y a des trous.
Ah.
C'est peut-être parce que c'était plus étiré au niveau des saisons.
Ah.
C'est peut-être pour ça, là. Il y a peut-être un peu de longueur au niveau des saisons, tandis que le livre, on finit par aboutir à quelque chose. Parce que ça 400, le livre a 400 quelque chose pages. 400
ah oui, quand même.
Une page, quand même. Mm-hmm. Et je sais pas, c'est peut-être une fausse impression, mais ça m'a paru plus court, le livre. On aboutissait plus vite à ce qu'on voulait.
Vous l'avez apprécié?
Oui, vraiment, oui.
Bon.
Oui.
Bon. Non, je demande parce que j'ai lu plusieurs critiques sur Internet et il y en avait beaucoup qui étaient carrément négatives au niveau du livre. Et entre autres, une personne, je l'ai ici, je pense, sur ma recherche, enfin bon, de toute façon, peu importe, qui disait qu'elles avaient raté la série, que donc elles avaient hâte de lire le livre et que vraiment, elles avaient trouvé ça carrément plan-plan, plan-plan dans le sens... plan-plan. Comment je pourrais vous traduire plan-plan?
Plan-plan,
José.
Plan-plan dans le sens de plate.
Dans le sens de plate, merci. Merci, José Distasio, qui est vraiment...
J'essaie de traduire des onomatopées.
Oui, c'est ça.
Quoi.
Non, mais vous, apparemment, ça vous a pas fait ça, Huguette?
Ben, je suis assez ouverte au niveau des...
C'est bien.
C'est certain que je me laisse porter, puis c'est étonné que j'aime lire dans ce...
Ben oui.
C'est certain que ça arrive que j'en aime pas, là, c'est certain.
Non, c'est certain. Huguette, vous aimez bien manger, vous aimez les plaisirs de la table?
Oui, c'est sûr.
Alors donc, dans deux semaines, lorsqu'on va diffuser l'émission, vous n'allez surtout pas rater l'entrevue avec José Distasio?
Ben, je vais écouter ça avec un grand, grand plaisir. Madame m'entend de vive voix, n'est-ce pas?
Ah, oui, comment? C'est tout juste si je ne vous réponds pas depuis le début.
Ah non, écoutez, on a un plaisir fou depuis qu'elle est arrivée ici. José, c'est la folie furieuse en studio. Alors d'abord, tout le monde fait semblant qu'il a quelque chose à faire.
C'est sûr, on n'entend tout de même pas.
Et moi, j'accumule les titres de livres et là, j'en ajoute un. Écoutez, moi, je parle d'ici puis je m'en vais lire.
Voilà. Alors, Huguette, merci beaucoup encore une fois pour cette nouvelle participation. Je vais vous dire à la saison prochaine, sûrement, parce qu'il ne nous reste plus que deux émissions à enregistrer. Mais je vous retrouverai et nous vous retrouverons, les auditeurs et moi-même, avec un grand plaisir.
Bien, je se répète.
D'accord.
Bon été.
Bon été à vous.
Merci. Oui, bon été à vous ici, Huguette. Au revoir. Alors voilà. Hein, ça fait combien? Ça fait au moins 2 semaines que je vous dis, si tout va bien, on va avoir José Distasio en studio. Puis, bonjour José d'abord.
Encore bonjour Clotilde.
Vraiment, un grand, grand bonheur de vous avoir ici. Je voudrais préciser que Flammarion, votre maison d'édition, ils ont été d'une gentillesse parce que l'état de mes livres, c'était quand même assez catastrophique.
Ce qui est bon signe, Clotilde.
Ce qui est quand même bon signe, oui. Parce que voyez-vous, je me suis ouverte à vous et vous savez que je ne suis pas une grande cuisinière, mais... J'ai d'autant plus de plaisir à vous recevoir que ce n'est pas la cuisinière que je reçois, c'est la femme qui aime, qui apprécie préparer, faire à manger pour les amis, pour elle-même d'ailleurs aussi, puisqu'il y a ce livre sur le cocooning qui est le dernier que vous avez sorti. Et c'est à cette femme-là aujourd'hui que je vais m'adresser. Et vous m'avez dit tout à l'heure dans le couloir, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est pas les recettes. Ce qui m'intéresse, ce sont les produits, c'est l'échange.
Ouais. C'est les produits d'abord, je me dis tout le temps. Quand on a un bon produit, on n'a pas besoin de le transformer tant que ça. On peut en profiter tel qu'il est et sans trop le transformer, sans trop le camoufler, tout ça. Et finalement, j'ai réalisé que la cuisine ou que manger, pour moi, était un passeport de rencontre. C'est avec c'est avec ça, finalement, que je rencontre les gens. C'est avec ça que je, quelque part, communie avec les gens quand on est autour d'une table. C'est le prétexte, parler de ce qu'on mange. On mange tous, là, tu sais. On a cette chance, on mange tous. Et donc, c'est un prétexte de partager, de connaître une culture à travers les goûts, de voyager en restant chez soi. C'est comme un magnifique prétexte, un magnifique passeport. Alors oui, la recette peut être intéressante, mais c'est beaucoup plus un prétexte que d'autres choses.
C'est ça. Oui. J'avais noté, puis évidemment, comme toujours, je respecte très, très peu
notes.
Mes notes. Ben ouais. Et ma première question, je vais quand même y revenir, c'est comment allez-vous, José?
Ça va très bien, merci. Ça va vraiment très bien. Bon. J'ai pris ma pause santé et depuis, je dirais que j'ai plein d'énergie, j'ai hâte de recommencer. Mais déjà, je n'avais pas arrêté. Hein. L'année dernière, je n'étais pas publique, mais j'avais travaillé sur un documentaire pour les enfants. Ouais. J'avais commencé un autre livre. J'avais quand même fait plein de choses. Mais j'ai eu un cancer. Ouais. Donc, j'ai pas tourné pendant une année parce que d'une étape à l'autre, c'est difficile de savoir où ça nous mène. Et maintenant, tout s'est bien passé. Et je suis vraiment en grande forme. Et j'ai appris de cette expérience-là. Oui, comme on apprend toujours des expériences que l'on a. Mais j'ai appris plein de choses et maintenant, je vais très bien.
Et ce qui est formidable, José, c'est que, et vous devez le savoir, de toute façon, les gens vous le disent, mais il nous manquait quelqu'un à la télé. Ah. Mais c'est vrai, ça. Et c'est vraiment comme quelqu'un, moi, j'avais l'impression de vous connaître, moi qui ne suis pas une grande cuisinière, et ce rendez-vous-là, puis en plus, on ne savait pas comment ça allait.
Ouais.
Et je vous garantis que même autour de moi, là, les gens à qui... parce que parfois, là, bon, je connais du monde un petit peu dans le milieu. Je disais, est-ce que tu connais José Distasio? Est-ce que tu sais comment elle va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Parce que c'est vrai et c'est normal. Alors donc, c'est d'autant plus heureux lorsque tout d'un coup, on vous voit à la une d'un journal en disant, la revoici et en forme.
Ah oui, vraiment en forme et tout s'est bien passé. C'est vrai que quand c'est arrivé, j'avais envie de faire ma convalescence sans trop en parler, puis aussi parce que je savais pas où ça allait d'une étape à l'autre. Je savais pas où ça allait, donc je savais même pas où me situer. Est-ce que je reviens tout de suite? Alors je dis, je vais attendre la prochaine étape, et d'une étape à l'autre, il y a une année qui a passé. Alors c'est comme ça que j'ai peut-être gardé un petit peu le silence, mais ça empêchait pas que tout le monde que je rencontrais sur la rue, et ça empêchait pas non plus que j'étais active pendant cette période-là aussi.
Bon. Est-ce que, parce que vous, non seulement vous êtes dans la cuisine, mais enfin vous êtes quand même dans une cuisine relativement santé, sans l'appli cuisine santé, et ça je vous en remercie, mais on sent que souvent vous aimez, vous l'avez dit tantôt, les bons produits. Est-ce qu'on tombe de haut? Est-ce qu'on se dit, mais attends, je comprends pas là?
Non, parce que c'est certain que la question se pose.
La question se pose
et je mange, j'avoue que j'ai même très peu changé la façon de manger depuis, parce que déjà... je mangeais comme il faut.
Bien sûr.
Je mangeais très peu de viande rouge, pour ne pas dire à l'occasion. Ouais. J'adorais les crucifères, tout ce qui est légumes verts et tout ça. Et les gras trans, pas mal. Non, je mangeais quand même. Mais c'est multi. De toute façon, ce n'est pas... Non. Je veux dire, on s'entend que c'est une maladie qui n'a pas une cause.
Non, c'est ça.
Qui a plusieurs causes et une infinie... Tu sais, on pourrait en parler ça longuement, mais je veux dire, ce n'est qu'une partie de la chose. Mm-hmm. Et cette partie-là, bien, je la faisais correctement et je mangeais bien et tout. Alors, ça n'a pas rapport. Même, je venais de faire un examen médical qui me disait que j'étais... grande forme, je veux dire, assez pour être super fière. Tu te dis, bon, mais j'ai le lifestyle qu'il faut puisque je suis en forme et tout ça. Et du coup, donc, ça n'a pas... Je dis pas que ce n'est pas important. C'est un must bien manger. Mais ce n'est pas la seule chose. Mm-hmm. Il y a plein de choses qui peuvent être génétiques, qui peuvent être environnement, des millions de choses.
Je voudrais qu'on revienne à l'origine. Voilà. Alors, oui. D'origine italienne.
Oui.
Et puis, à un moment donné, vous avez une... C'est très, très joli. À maman, merci de m'avoir fait le cadeau de la gourmandise.
Mm-hmm. C'est un cadeau. C'est un cadeau.
Oui, hein?
Oh, oui, c'est un cadeau. C'est comme un immense plaisir. C'est tout à la fois. C'est une façon de se gratifier. C'est une façon d'aimer les gens, de leur montrer qu'on les aime. C'est une façon de partager. J'avais une copine, moi, qui était malade, ou peu importe les amis qui sont malades autour, c'est d'apporter ce qui va leur faire plaisir ou ce qui... peuvent manger dans le contexte. Ou la même chose pour fêter quelqu'un, c'est de choisir le menu en fonction de cette personne-là. Donc, c'est une façon d'aimer, de communiquer, d'échanger.
Mais c'est ça.
C'est plein de choses, de se gratifier.
Oui, parce que c'est gratifiant de réussir à quelque chose.
Écoute, même sans la cuisiner, de dire, en dehors de dire je cuisine, je mangeais. Si je me dis, bon, OK, je travaille fort, je vais arriver à la maison, je vais me faire un bon bol, ou bien je vais avoir un bon bol de soupe, ou je vais me faire un bon bol de soupe, ou bien je vais avoir un bol de pâtes, ou peu importe ce qu'on va décider qui va nous faire du bien. C'est un grand, grand, grand plaisir, là, tu sais. C'est vraiment comme de dire, bon, on va se gratifier, on va aller chercher quelque chose.
Et merci beaucoup de parler souvent de plaisir.
Oui.
On associe tellement, et là, bon, vous avez remarqué, gros soupir de l'animatrice, mais on associe tellement trop souvent la nourriture maintenant, attention justement à ceci, attention à cela, au contraire, privilégier ci, privilégier, bon, etc. Et là, je trouve que ce mot-là, ce mot d'ailleurs plaisir-là, est absent de nos assiettes.
Ouais.
D'ailleurs, je me demande, moi personnellement, si le problème de l'obésité ne vient pas beaucoup de cela, de l'absence de plaisir.
Encore là, de plusieurs causes. Ça, on pourra en parler longuement.
Oui, oui.
Et ce n'est pas...
Non.
C'est vraiment...
En tout cas.
Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il y a de quoi s'y perdre.
Oui, oui.
Il y a de quoi s'y perdre et je comprends. Oui. Avec les informations, on est bombardé d'informations, on ne sait plus. À un moment donné, même les choses qui sont bonnes...
Deux ans plus tard, c'est fini.
Oui, on les amandes, on est en train de détruire un coin de pays là, en mangeant trop d'amandes.
Le poisson, on est en train de vider les océans.
C'est comme... Il y a de quoi s'y perdre et quelque part, je pense qu'il faut y aller aussi avec son instinct, il faut y aller aussi avec le gros... Il y a un chef qui m'a dit ça, il dit le gros bon sens, un chef anglais que j'avais interviewé, puis il dit « common sense ». Juste le bon sens.
C'est ça.
Juste comme qu'est-ce qui fait sens.
Mm-hmm, exactement. Et puis de quoi j'ai envie tout de suite? Sûrement que si on en a envie, c'est sûrement parce que le corps en a...
Parce que les informations pour savoir ce qu'il ne faut pas manger, je pense qu'on les a. Je pense qu'on les a et on les assimile.
Oui.
Et puis on sait quand on fait des écartades et tout, puis pourquoi pas. Mais je veux dire... Le reste, c'est d'essayer de focusser. Et au lieu d'en faire comme un devoir, d'en faire encore là un plaisir, tu sais, d'aller chercher ça.
José Di Stasio, est-ce que vous vous êtes demandé, lorsque je vous ai invité à faire cette émission, mais attendez, là, on s'adresse beaucoup à des non-voyants. Est-ce que vous vous êtes posé la question? D'abord, est-ce que vous saviez que vos livres avaient été enregistrés, du moins 3 sur 4?
Oui, c'est beau, 3 sur 4. Je pensais qu'un ou deux, mais je ne savais même pas que 3 étaient. Et je suis ravie. Et oui, je me demandais que... C'est dans laquelle mesure... Je savais qu'il y avait des ateliers, mais je ne savais pas dans quelle mesure c'était populaire.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu de recherche.
Ouais.
Et je suis allée auprès de quelques personnes non-voyantes que je connais et je leur demandais, est-ce que vous vous faites à manger? Alors là, il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui, mais très peu, d'autres non, je fais venir, etc. Et là, j'en ai rencontré une. En fait, je ne l'ai pas rencontrée, on s'est parlé au téléphone, qui m'a dit, mais ô combien, madame? C'est pas parce que je ne vois pas que je ne mange pas. J'ai dit, mais j'en suis convaincue.
Ben oui.
Mais c'est quelqu'un qui adore faire à manger. Et je lui ai dit, écoutez, je reçois José Di Stasio. Est-ce que vous accepteriez que je vous téléphone pendant que José sera là et que vous puissiez communiquer ensemble. Alors, je vous propose de communiquer avec une personne non-voyante qui adore faire la cuisine. J'imagine qu'elle est ici. Marcel-Anne Champoux. Bonjour, Marcel-Anne.
Oui, je suis avec vous.
Vous êtes là. Bon, bonjour, Marcel-Anne.
Bonjour, Marcel-Anne. C'est José.
Alors, donc, c'est ça. Moi, j'ai pris contact avec vous, ben, grâce d'ailleurs à Huguette, à qui nous parlions un petit peu plus tôt. Et vous, vous êtes une non-voyante. Vous me disiez... Vous voyez des lumières et des contrastes hein, seulement.
Oui.
Donc, vous ne voyez... Oui, et vous êtes une grande cuisinière. Vous adorez ça.
Ben, écoutez, comme on disait, on mange tous les jours. On a cette chance-là. Donc, oui, depuis très jeune, je cuisine. J'ai commencé à me familiariser, à couper des légumes, et etc. Lorsque j'étais assez jeune,
Et vous étiez déjà non-voyante?
Oui, oui, oui.
D'accord.
Et c'est votre mère qui vous enseignait?
Oui, au départ, oui. Ma mère voulait que je collabore et que j'apprenne, surtout. Et c'est couper des légumes. Disons que moi, je n'ai pas peur, mais certaines personnes qui sont autour de moi s'en vont ailleurs parce qu'ils ont peur que je me coupe.
Ils vous laissent faire ça tranquille, hein?
Oui. Oui,
c'est ça.
Parce, écoutez, nous qui avons nos yeux, moi, j'ai peur de ça. Alors, je me dis, bon, c'est quand même exceptionnel. Quel genre de plat vous préparez? De tout?
Assez de tout, sauf pas beaucoup de dessert.
OK.
Plus les mets principaux, des soupes, des potages, des salades... J'essaie un peu de tout. J'essaie la cuisine asiatique aussi.
Quand même. Formidable.
Il s'agit d'étiqueter nos condiments, nos aliments.
En braille, donc?
C'est ça.
En braille, pour moi.
Oui.
Pour éviter de prendre ce qui n'est pas nécessaire dans la recette et l'ajouter.
Oui. Et puis, vous avez des plats, je crois, hein, parce que chaque plat correspond, chaque contenant correspond au contenu. Finalement,
vous avez... En fait, oui, pour la congélation, donc le potage va être dans un plat d'une certaine grosseur, d'une certaine forme. La sauce spaghetti va être dans une autre forme.
Ah, c'est brillant.
C'est comme ça qu'on fonctionne. Et si on a des plats pareils, on les identifie aussi.
Étiquetés.
C'est ça. Et c'est aussi l'endroit où on va les placer. Une tablette plus qu'une autre va être, disons, pour la compote de pommes, par exemple. Au lieu de le potage va être dans l'autre tablette.
OK, bien sûr.
C'est des repères.
Bien sûr. Écoute. Excusez-moi de vous demander ça. Est-ce que vous vivez seule?
Oui.
En plus. Donc, vous vous organisez vraiment toute seule.
Oui, j'ai de l'aide pour l'épicerie, comme ça. J'ai de l'aide aussi pour couper certains aliments qui sont plus difficiles.
Genre comme, les courges ou les trucs comme ça, c'est pas vrai.
Une courge, un chou,
non. On touche pas à ça.
Ben, en fait...
La courge musquée, non.
Ouais, les personnes qui ne voient pas peuvent le toucher.
Ouais.
Sauf que j'ai une maladie musculaire articulaire.
En plus.
Je le ferais probablement. Souvent, il n'y a pas grand-chose qu'on ne fait pas, même si on ne voit pas.
Marcel, vous êtes vraiment... Écoute, c'est brillant comment vous travaillez. Oui. C'est brillant. Est-ce que vous avez beaucoup, beaucoup de satisfaction à manger? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... tu sais, comme on disait tantôt, là...
Le plaisir avant tout.
Le plaisir ou bien...
Le plaisir, tout dépendant des périodes. On se fait entre amis aveugles et entre amis qui voient... on s'organise des rencontres. Si je vous disais même entre aveugles, on se fait des fondues chinoises.
Ah oui. Ben oui.
Je vous dirais que tout le monde parle autour pour éviter qu'on renverse une coupe de vin ou quoi que ce soit.
Oui.
Mais il y a beaucoup de communication.
Oui. Non, mais c'est tellement, comme on parlait tantôt, un beau prétexte de rencontre.
Oui,
effectivement.
Qu'on le fasse, vous avez, c'est vraiment brillant comment vous travaillez. C'est vraiment, vraiment intéressant.
Et c'est inspirant. Hein?
Et inspirant.
On trouve des moyens hein, pour le faire seul. Oui.
Ah non, mais vous êtes inspirante, vraiment, là, c'est le travail que vous faites. Et puis l'approche, ça veut dire qu'en plus d'exécuter, pour que ce soit bon, mais vous avez toutes les étapes de placer, diviser, mm-hmm. organiser vos choses. C'est
oui,
vraiment
identifier
beaucoup, identifier. Non, c'est vraiment non, bravo, vraiment là. C'est...
Je savais que ce serait une belle rencontre.
Ah,
hein,
oui.
Je l'avais dit, Marcella, hein, parce que vous aviez un petit peu hésité. Elle était un petit peu timide, Marcella.
Oh, non, Marcella. Il faut que je lui envoie mes livres aussi.
Mais oui, mais non, mais regardez-moi déjà ce que je vais vous faire. Je vais lui en envoyer, hein. Ça c'est certain.
C'est parfait.
J'imagine que vous allez avoir quelques amis aussi qui vont pouvoir, du coup, voyant, qui vont pouvoir faire avec vous quelques recettes. Ça va me faire plaisir, vraiment.
Donc, on a quand même beaucoup certaines facilités avec le braille et avec l'audio.
Bien sûr.
Et
l'audio.
Avec l'Internet aussi.
C'est ça. Mm. Mais vous savez que par audio aussi, donc, vous avez trois livres de José Di Stasio. Le plus récent, qui est un livre sur le cocooning. Et c'est pas parce qu'on est seul qu'on peut pas cocooner. Ça, je l'ai entendu.
J'ai fait la leçon à Claudine tantôt.
Je l'ai entendu, celle-là.
N'est-ce pas, Marcel?
oui, je vais sûrement les procurer
d'accord.
avec la Société québécoise du livre adapté.
Bon, il y a les pâtes, donc pâtes, etc., également, à la Di Stasio, et puis le premier à la Di Stasio également, où là, elle touche absolument à tout, et ça nous donne des idées.
Des belles découvertes.
Oui, et c'est simple. Moi, c'est ce que je lui disais. Moi, il ne faut pas que ce soit compliqué, parce que déjà, j'ai du mal.
C'est beaucoup d'étapes, hein. Ça nous décourage un peu.
Puis vous savez ce qui me décourage. Vous pouvez rester avec nous, Marcelle-Anne. C'est que moi, je suis un petit peu tata. C'est-à-dire que moi, je suis déjà, voyez-vous, là, j'ai mes papiers qui sont bien rangés devant moi. Et à l'heure de faire la cuisine, il n'y a rien qui me déprime plus. Après, quand c'est le bazar total, je vous vois, vous, quand vous faites revenir des petits oignons, il n'y a rien qui saute. Moi, j'ai du grand jusqu'au plafond, tu comprends? Ça revole partout. J'ai le détecteur de fumée qui part. Eux autres, à la TV, jamais. Tout est propre, tout est impeccable. Elle dit, oh, ça sent bon, on ne voit même pas un petit fumée qui dépasse.
Là, vous exagérez.
Oui, j'exagère, évidemment.
Là, vous exagérez d'un cran.
Mais oui, j'exagère, évidemment, mais c'était juste pour...
Oui,
pour
non, les... mais c'est, on voit un peu ce que... On vous imagine en cuisine, Clotilde. Je pense que l'image parle. C'est tout ce qu'on peut dire.
Bon, ben écoutez, Marcelle-Anne, grand, grand bonheur de vous avoir parlé.
Merci encore une fois. Bravo, Marcelle-Anne, vraiment.
Au plaisir de se rencontrer.
Avec plaisir, j'espère.
Dans la vraie vie.
Oui, j'espère, oui, vraiment. Et puis, bonne continuation. Hein.
Merci.
Très ravie de votre
également.
Téléphone. Je suis contente de vous avoir entendu. Ça m'intéresse.
Beaucoup.
Merci, bye-bye.
Au revoir,
bye-bye.
Marcelle-Anne. Au plaisir. À la prochaine saison. Hein. Je veux à tout prix qu'on refasse quelques émissions
d'accord,
ensemble.
D'accord, je vous remercie beaucoup.
Passez un bel été en attendant.
Merci,
au revoir, bon
également.
Été.
Voilà, ça passe vite. Hein.
C'est fait.
On a été ensemble, quoi, 17-18 minutes à peu près.
Voilà.
Et puis voilà, bon, c'était ça, la petite surprise.
Un grand plaisir. Un grand plaisir de te rencontrer, Clotilde. Un grand plaisir, le téléphone. Ça a été un beau moment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, José. Puis, encore une fois, je vais envoyer ça
oui.
à notre amie Marcelle-Anne.
Oui.
Comme ça, vous
oui.
allez les signer.
Oui, oui.
Merci.
Au revoir,
José Di Stasio.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles, la suite avec Clotilde Seille, et puis des mots, beaucoup de mots, beaucoup de livres, et de la musique aussi.
Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter l'écriture. On s'est pointé à 20 en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre de liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en prose, que c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'heure d'être au petit Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On porte des écharpes, on écrit sur les nappes, on brise l'église des pianos. On crie le bar à boire, on payera plus tard en coupure de journaux. Au café littéraire, n'y a guère que l'atelière qu'aime pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elle t'en lirait 20 tomes au travers de ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye cul-sec, on redituit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cachenet au briquet des étoiles. Au matin, pêle-mêle, froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Au café littéraire, suivi l'itinéraire, c'est sous le dernier porche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. Où l'arbre sur le seuil sème comme un recueil ses feuilles de brouillon, et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau de Villon.
Café littéraire, c'est une chanson d'Alain Leprest. Je dois reconnaître que cette chanson-là me bouleverse complètement à chaque fois que je l'entends. L'écriture de Leprest est chantée par une voix que jamais je n'aurais imaginé pouvoir entendre sur ce texte-là, la voix d'Hervé Villard, qui, à l'époque, lorsqu'il chantait en France, était considéré, et il était d'ailleurs ce qu'on appelait un chanteur à minette, vous savez, toutes les petites chansons. Et là, tout d'un coup, la première fois que j'ai entendu cette chanson-là par Hervé Villard, je me suis dit, mais ce type-là avait une voix absolument extraordinaire. Alors Hervé Villard chantait à l'instant cette chanson d'Alain Leprest sur les ondes de Canal M, le café littéraire. Voici la chronique sur ma table de chevet. Alors, ce livre, en ce moment, que j'ai sur ma table de chevet, je vous l'ai présenté il y a quelques semaines parce que c'est une nouveauté au SQLA. C'est un livre de Delphine de Vigan. J'hésite toujours entre De Vigan et De Vigan. Honnêtement, j'entends les deux. On va dire De Vigan. Tiens, ça s'écrit V-I-G-A-N et c'est une nouveauté. Donc, en fait, c'est sorti l'an dernier sur papier. C'est une nouveauté maintenant via le SQLA. Ça s'appelle D'après une histoire vraie. Et il est important pour parler de ce livre D'après une histoire vraie. Moi, je n'en suis qu'au tout début, d'ailleurs, de sa lecture. Mais il est important de revenir d'abord sur le livre précédent de Delphine de Vigan, un livre qui s'appelle encore, bien sûr, « Rien ne s'oppose à la nuit ». Et c'est un livre qu'il faut avoir lu absolument si vous voulez lire d'après une histoire vraie. C'est un livre, « Rien ne s'oppose à la nuit », je vous en avais parlé à l'époque comme d'un livre coup de poing, un livre qui nous permet de rentrer dans la famille même de l'auteur. Dans une famille, vous savez que tout semble unir, mais derrière tout ce qui semble aller très très bien, on s'aperçoit que cette famille vit les pires horreurs finalement. Le père et la mère, bon, qui sont fondamentalement des gens qui n'auraient jamais dû faire d'enfants, mais qui en ont mis au monde un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, sans se poser de questions, de façon très égoïste d'ailleurs. Et puis les mômes en question, eh bien, ils morflent, comme on dit. Ça veut dire que vraiment, ils en prennent plein la figure. Ce sont des enfants à qui on donne le nécessaire, mais pas l'essentiel. Et ce livre-là, « Rien ne s'oppose à la nuit », repose aussi surtout sur la bipolarité de la maman et ce qui sera finalement son suicide, car elle finira par se suicider. Et je ne déflore rien, c'est très rapidement que l'on comprend et que c'est dit dans le livre. C'est un livre choc, donc, qui est arrivé dans cette famille un petit peu comme un tremblement de terre, imaginez, parce que c'est une histoire vraie. Alors non seulement c'est arrivé comme un tremblement de terre, mais il y a même un tsunami qui a suivi et qui a fait que l'auteur, et c'est d'ailleurs la question qu'on se pose quand on lit ce livre-là, Rien ne s'oppose à la nuit, c'est tellement fort qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle va écrire après ? Et c'est complètement la fondamentale du livre d'après une histoire vraie, donc le suivant, où l'auteur se demande effectivement « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire après ça ?» Surtout qu'on comprend qu'il y a beaucoup de membres de sa famille qui lui en veulent, qui ne lui pardonnent pas d'avoir mis au grand jour des secrets de famille. Et donc, elle se pose cette question. À un moment donné, quand le livre débute, elle est dans un salon du livre, elle signe des livres. Et elle signe. Il y a une queue incroyable. Et elle n'en revient pas d'avoir suscité un tel engouement. Et à un moment donné, elle n'en peut plus. Elle dit, écoutez, il faut que je rentre. Et il y a une dernière personne qui, bien que la séance soit terminée, se présente encore et lui tape gentiment sur l'épaule et lui dit, s'il vous plaît, madame, voudriez-vous me signer sur votre livre ? Et elle s'entend lui répondre, non. Et là, elle explique qu'elle n'en peut plus. En plus, elle se sent comme un imposteur. Elle ne comprend pas pourquoi ce livre a suscité tout cela. Alors là, nous sommes au début d'après une histoire vraie. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre une femme terriblement intrigante qui arrive dans la vie de la narratrice comme un cheveu sur la soupe, qui s'immisce petit à petit, qui prend toute la place. Et plus le livre avance, et plus on se demande ce qui va se passer avec cette femme qui n'est jamais nommée. C'est simplement elle. Elle comme la lettre elle. Et à chaque page, vous allez vous demander quelle est la part de vérité et la part de fiction dans ce livre. C'est ce qui, à mon avis, en fait tout le charme et toute la réussite, mais il y a des gens justement que ça a profondément agacé de ne pas savoir quelle était la part véridique et la part de fiction. Et en plus, je vous rappelle avec un titre pareil, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, qui a obtenu le prix Renaudot en 2015 et dont les critiques, du moins quelques-unes, ont dit ceci. Le nouveau récit de la romancière, d'après une histoire vraie, s'apparente à un thriller psychologique. Dans Télérama, on pouvait lire, l'auteur met en scène son double, secoué par le succès de son dernier roman et aux prises avec une amitié dangereuse, une fiction qui donne le vertige. Et enfin, une dernière critique, Delphine de Vigan excelle à égarer le lecteur, instille sans cesse le doute. Entretient le mystère à la manière de Stephen King, d'après une histoire vraie et l'histoire captivante d'une manipulation. Mais qui manipule qui, au juste ? Voilà, alors je vous recommande les deux livres. Allez les chercher, tenez, les deux. Rien ne s'oppose à la nuit. Et puis, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, en deux mots, V-I-G-A-N. Ah, la semaine prochaine, je reçois tout un personnage aussi, décidément. Hein, que de belles rencontres depuis quelques semaines à cette émission des livres plein les oreilles. La semaine prochaine, je rencontre une auteure que j'avais envie de rencontrer depuis très longtemps, c'est Roxane Bouchard. Roxane Bouchard qui, entre autres, a sorti, c'était en 2014, un livre qui s'appelle « Nous étions le sel de la mer » et dont nous allons parler ensemble. Il est sorti en audio il n'y a pas si longtemps que cela, au SQLA. Roxane Bouchard, qui est une femme qui, il y a une dizaine d'années, a décidé d'aller en mer. C'est quelqu'un qui a appris à faire de la voile, d'abord sur le Saint-Laurent, puis ensuite en Gaspésie. Et c'est là que les pêcheurs l'ont invitée à leur bord pour lever les cages à homards et constater de visu que les levées de soleil sur Bonaventure ne mentent jamais. Nous étions le sel de la mer est son cinquième roman. Je vous dirai dans quelques minutes quels autres romans sont disponibles en format audio adapté. Alors cette histoire, c'est une histoire un peu thriller, policier. Puis ça sonne très québécois pour les gens qui aiment que ça sente québécois, comme moi d'ailleurs. Alors, c'est Vital, Vital avec un grand V comme le prénom. Ça a l'air qu'il a ramassé un cadavre dans ses filets. Il l'a dit à la radio. Tu veux qu'on t'en raconte des histoires de marins ? Reste avec nous autres, puis tu vas en avoir, la petite. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Et ce matin-là, le fameux Vital Bugeaud, a repêché le corps d'une femme qui, jadis, avait viré le cœur des hommes à l'envers. En Gaspésie, la vérité se fait rare. Surtout sur les quais de pêche, les interrogatoires dérivent en placotage, les indices se dispersent sur la grève, les faits s'estompent dans la vague et le sergent Morales, enquêteur dans cette affaire, aurait bien besoin d'un double scotch. Depuis que j'ai publié « Nous étions le sel de la mer », l'univers qui anime ce livre me manque, dit Roxane Bouchard, et c'est de tout cela dont nous allons parler la semaine prochaine. Elle a écrit quelque part sur son site internet « Tant qu'un roman n'est pas déposé, l'auteur a le loisir de jouer avec ses personnages, faire exploser une tomate de plus entre les mains de Renaud, ajouter des étoiles aux nuits d'Yves Carl, un autre étage au menton du notaire Chiasson. Mais dès que le livre part pour l'imprimerie, c'est terminé. Il se fige et nous quitte pour rejoindre les lecteurs. » Mario Vargas Llosa, dans « Les lettres à un jeune romancier », dit qu'on écrit parce qu'on vit une insatisfaction intime vis-à-vis de la vie véritable. Il ajoute que cette insatisfaction est encore plus grande quand on quitte la fiction pour revenir dans le réel, car nous sommes alors confrontés à ses limites et à ses imperfections. Depuis un an, écrit Madame Bouchard dans cette lettre, je travaille sur un projet de recherche-écriture lié à l'univers militaire. Et chaque fois ces jours-ci que je me penche sur mon clavier pour tenter de raconter les histoires que les militaires m'ont confiées, je me retrouve confrontée à la guerre, à celle qui hante les souvenirs de ceux qui sont allés en Afghanistan, à celle qui enflamme l'Ukraine, la Russie et bombarde la bande de Gaza. Et là, elle nous dit « Saint-Sibum-de-Un-Li-Un » que « j'aimerais ça retourner dans cette Gaspésie imaginaire où Vital remonte le soleil, le vent dans ses filets, où Cyril attend sa dernière pêche et où Morales retrouve la grâce de l'amour. Entre ces personnages fictifs qui me manquent et le réel cassant qui m'entoure, je suis comme Renaud, toujours en train de mettre et d'enlever mon petit chapeau ridicule d'auteur en me demandant à quoi ça sert d'écrire. » Et puis tout d'un coup, je reçois le mot inattendu d'un lecteur, d'une lectrice, qui me raconte qu'il ou elle a aimé telle scène ou tel personnage parce que ça l'a fait rêver, rire ou voir la Gaspésie autrement. Alors je me dis que la fiction ne se fige pas quand le livre part en impression, que mes personnages restent encore vivants et que l'écriture a du sens si elle permet d'ouvrir envers et contre les bombardements du réel un espace de silence pour ceux et celles qui rêvent de réentendre, même dans leur salon, les murmures délicats de la mer. Merci pour vos mots si gentils. J'ai une petite minute, alors j'ai envie, si vous le voulez, de vous lire le tout début de ce livre « Nous étions le sel de la mer » de Roxane Bouchard, que je reçois la semaine prochaine. L'Alberto, 1974. Quand O'Neill Poirier, oui, a vu la coque du voilier se profiler à travers le hublot de sa cabine, il s'est dit que la journée commençait vraiment mal. Poirier venait des îles de la Madeleine avec son caractère et ses deux aides-pêcheurs. Ils étaient arrivés l'avant-veille à Mont-Louis, le temps de se ravitailler pour rallier l'île d'Anticosti où les attendaient la morue et le hareng. Ils s'étaient couchés tôt la veille pour partir, avec l'aube, et n'avaient pas entendu le voilier s'amarrer à leur épaule. Le ronronnement de la génératrice avait sûrement couvert les bruits de pas de l'équipage voisin. O'Neill Poirier a dit à ses gars de se lever, et Boudeur, le pêcheur, est monté sur le pont pour faire un peu de tapage, question que ses vacanciers de voileux comprennent clairement qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Quand un homme se lève à 3h30 du matin pour aller faire son ouvrage dans l'eau glacée de l'estuaire du Saint-Laurent, ça lui tente pas d'avoir à tasser un voilier de touristes endormis qui rechignent à se réveiller de bonne heure et rouspètent parce qu'ils ont peur que leurs amarres soient pas bien rattachées par les pêcheurs. Voilà l'ambiance de Roxane Bouchard que j'ai décidément aussi bien hâte de rencontrer pour ce livre-là notamment. Nous étions le sel de la mer, mais il y en a également deux autres disponibles au SQLA, Whisky et Parabole, et puis La Gifle. Dans le cadre de la chronique des nouvelles et des livres, j'ai eu envie qu'on se replonge dans l'univers de Paul Auster. Pourquoi ? Eh bien parce que M. Paul Auster vient d'achever un espèce de marathon d'écriture de plus de 3 ans. Trois ans d'écriture. Un livre consacré... c'est un livre de 925 pages. Le plus volumineux de ma vie, a-t-il dit. 6 ans après la sortie de sa dernière fiction, Sunset Park, ce livre paraîtra d'abord en anglais au début de 2017. Vous comprendrez bien que je ne parlerai pas que de ce bouquin-là parce que nous ne l'aurons pas en audio avant mi-2017, par là, mais c'était important de reprendre contact avec ce Paul Auster-là. Il avait sorti entre deux, avant de se mettre à l'écriture de ce bouquin-là, de plus de 1000 pages en français, 925 en anglais, il avait publié deux, pas des espèces d'autobiographies, mais c'est un peu ça quand même. Il avait sorti ces ouvrages-là, Winter Journal en 2010 et Report from the Interior, pardon pour mon anglais, en 2013, ainsi que Here and Now, un échange épistolaire avec l'écrivain nobelisé sud-africain G.M. Coetzee. J'ai un doute sur la prononciation de son nom, et ça, c'était en 2013. Il semblerait que ce projet-là, il en dit, Paul Auster, je vais le citer carrément, « Ce projet entier m'aura pris plus de 3 ans et je l'ai terminé il y a seulement 3 semaines, joint au téléphone à sa résidence de Brooklyn. Autrement dit, ça fait 4 ou 5 semaines qu'il l'a fini. Il a dit « Je suis tellement épuisé que je suis à peine capable de sortir marcher. » Tellement ça l'a vidé littéralement. C'est comme si j'avais vécu dans un bunker pendant 3 ans. Je n'ai fait qu'écrire. Et maintenant, je n'ai besoin que d'une chose, sortir prendre l'air, car mon corps et mon esprit sont très faibles. Et quand on demande à Paul Auster pourquoi l'écriture de ce nouveau roman a été si épuisante, il explique que sa rédaction a été si longue et si intense que ce manuscrit représente plus de 1000 pages. L'écrivain préfère ne pas dévoiler l'histoire de ce nouveau roman. Il souhaite que la surprise soit totale pour ses fidèles lecteurs. Il consent toutefois à dire qu'il s'agit d'une sorte de saga. Quand vous allez commencer à le lire, vous allez comprendre pourquoi il m'a pris tant de temps à écrire et pourquoi il sera si volumineux, Monsieur Paul Auster. Et puis, on lui demande si, malgré cette fatigue-là, il a toujours le même plaisir à écrire de la fiction. Il explique que pour ce nouveau roman, il a ressenti un immense et incomparable bien-être. « C'est toujours difficile », a-t-il dit, Paul Auster. « Je m'investis chaque jour dans cette tâche comme je l'ai toujours fait. Après une journée de travail, j'étais si fatiguée, mentalement et physiquement, que je m'écroulais littéralement sur mon lit. » Mais le plaisir de finalement trouver la bonne formulation ou le bon paragraphe est toujours le même. C'est drôle parce que je commence à être assez âgée et pourtant, je me sens encore très jeune, comme si j'étais un petit garçon qui découvre et apprend, rempli de détermination. Pour moi, le travail est toujours aussi neuf, aussi excitant et rafraîchissant. Et c'est normal puisque j'écris sur la vie. Donc, j'apprends encore comment vivre. Vous n'arrêtez jamais d'apprendre, de grandir et d'essayer. Donc voilà pour Paul Auster. J'ai eu envie d'aller faire quelques recherches pour vous et de voir ce qui serait disponible en audio adapté. Voici tout ce que j'ai trouvé. Ce livre d'abord, « Seul dans le noir », un roman de Paul Auster, c'est sorti en 2014 via l'Inca. Ah, il y a ce livre merveilleux, qui est un des livres qui m'a le plus touché au monde, ça s'appelle Tombouctou. Tombouctou, c'est le nom d'un chien. Et bon, vous savez, maintenant, on le sait, l'amour que je porte à ces petites bêtes. Eh bien, mais c'est vraiment un livre d'une sagesse et d'une poésie aussi remarquable, Tombouctou. Il y a aussi La Chambre dérobée, enregistrée en 2013, Sunset Park, qui était son dernier roman d'ailleurs, mais que nous avions enregistré un petit peu avant, Invisible. Également, c'est aussi de Paul Auster, ainsi que le livre des illusions, et puis la fameuse trilogie new-yorkaise, ça c'est l'incontournable, on peut difficilement passer à côté lorsqu'on veut se familiariser avec l'œuvre de Paul Auster. Ainsi d'ailleurs, il faut lire Brooklyn Follies, c'est un amoureux fou de New York, hein. C'est là qu'il vit, et c'est un bonhomme qui adore sa ville comme un fou. Il y a aussi La Nuit de l'Oracle et Dans le Scriptorium. Alors voyez-vous, vous avez beaucoup de choix. Si vous n'avez jamais lu du Paul Auster, ruez-vous là-dessus. C'est un vrai bonheur. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Qui dit la fin de Des livres pleins les oreilles, dit aussi Titre en rafale. Thank you. Madame Danielle Henkel, ça y est, le livre Au cœur de mes valeurs est disponible maintenant en audio. Vous imaginez bien que j'ai tout fait pour l'accueillir à cette émission des livres plein les oreilles. J'ai reçu un petit mot très, très, très gentil de cette femme qui s'est profondément excusée, qui est très, très sensible à la cause et qui est très sensible à la mission de Vues et Voix. Mais elle m'a dit être vraiment trop sollicitée et elle est un petit peu obligée de lever le pied. Alors, elle m'a dit que vraiment, il fallait que j'embrasse bien tous mes auditeurs. Alors, je vous recommande quand même ce livre, même si Madame Henkel ne vient pas nous le présenter en personne, Au cœur de mes valeurs. Elle prend la plume en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneur, mère, amoureuse. Et en tant que fille aussi. Et c'est sans détour, apparemment, sans peur de déplaire, qu'elle s'exprime à propos de plusieurs sujets où les affaires et la vie s'entremêlent sans cesse. Voyez-vous, j'ai le livre sous les mains. Je peux prendre, par exemple, là, il y a la vieillesse, l'âgisme. Elle s'exprime là-dessus. Je vais ouvrir une autre page. Vérité et authenticité ici. L'amitié, un cadeau de la vie. L'amour, la vie à deux. Elle s'exprime sur les relations avec sa famille élargie, la famille en général. Elle s'exprime bien évidemment sur les affaires. Il y a un moment donné où il y a tout un paragraphe sur la peur, où elle écrit entre autres « Je me souviens qu'adolescente, j'aimais répéter à qui voulait bien l'entendre que je n'avais peur de rien. Faux. Ce n'était qu'une impression, dit-elle. La peur était bien là, je l'avais juste apprivoisée et plutôt qu'elle me desserve, j'avais appris à m'en servir. » Alors voilà, Danielle Henkel, Au cœur de mes valeurs. Le polar du jour, Un espion ne dort jamais, de Jacques Baudouin. La plus grosse affaire d'espionnage depuis les écoutes de la NSA. Nous sommes à Saint-Pétersbourg en octobre 2013. Un transfuge des services secrets russes est exfiltré vers l'Ouest au cours d'une opération de la CIA. Ces révélations sont explosives pour les États-Unis et leurs alliés. Que cachent-elles ? Barbara Coleridge, numéro 3 de la CIA, ou la CIA si vous préférez, ne peut le découvrir sans l'aide d'un Theo Zellner, ex-agent des services spéciaux, qui s'était pourtant juré de ne plus jamais revenir dans le grand jeu des espions. Alors c'est dans ce contexte international chaque jour plus tendu, la redoutable entreprise de déstabilisation qui menace les grands pays occidentaux fait déjà des dégâts. Le premier visé, le gouvernement français qui se retrouve au bord du chaos. Un espion ne dort jamais, de Jacques Baudouin. Oh tiens, un livre pour la zénitude et le cocooning à déguster avec quelques recettes de notre ami José Di Stasio qui était là dans la première demi-heure de cette émission. Elles sont nombreuses les belles raisons d'habiter sur Terre. On les connaît, on sait qu'elles existent, mais elles n'apparaissent jamais aussi fortes et claires que lorsque Philippe Delerme nous les donne à lire. Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur la Terre. En ces périodes sombres où l'on entend parler tellement de choses laides, allez vous chercher ce livre de Philippe Delerme, D-E-L-E-R-M, « Les eaux troubles du Morito et d'autres belles raisons d'habiter sur Terre ». Juste un petit extrait. Dans la salle des pas perdus, ça c'est à la gare Saint-Lazare, on a mis un piano. Il y en a un dans toutes les grandes gares parisiennes désormais, mais on ne sait jamais comment ça marchera. À la gare du Nord, l'autre jour, une femme d'un certain âge a posé sa valise tout près d'elle et puis elle a joué, très appliquée, Jésus que ma joie demeure, avant de replonger dans la foule, consciente que personne ne s'était arrêté pour l'écouter. Elle est partie, la valise à la main, sans regard périphérique, et aux lèvres un petit sourire de gêne ou de contentement. Oh, allez vous chercher ça, Les eaux troubles du Morito de Philippe Delerme. Ça, je l'ai choisi à cause du titre. Parce que je trouve ça cute. Je pense que le livre l'est beaucoup moins. Pardon, Ma vie autour d'une tasse John Deere. C'est d'Émilie Rivard, comme ça se prononce. Nous sommes avec Étienne. Étienne est en cinquième secondaire, il est homosexuel, mais jamais ne s'est-il senti différent auprès des autres. Il est bon élève, il s'affirme avec un vocabulaire riche et parfois cinglant. Arrive le jour où un concours de bénévolat à l'école lui permettrait, s'il le remportait, de s'offrir un kayak et de faire un road trip avec ses amis avant le début des années de cégep, pour certains. Mais pour arriver à ses fins, eh bien, il aura besoin de l'aide de qui ? Mais de Mémé Poulette et de ses complices de la maison de retraite. Livre absolument délicieux et charmant, j'ai l'impression, ma vie autour d'une tasse John Deere d'Émilie Rivard. Sonia Benezra, je ne regrette presque rien, et c'est signé Lise Ravary, la journaliste, oui, Lise Ravary, dont on peut lire les chroniques dans le Journal de Montréal. Et bien, dans ce livre-là, on suit le parcours de la grande dame des interviews, c'est-à-dire Sonia Benezra, dont le parcours au sein du milieu artistique s'étend sur près de 3 décennies quand même. On l'a connue à Musique Plus, à TQS et même à TVA, et notamment à l'émission Deux filles le matin. Elle est aussi revenue à ses premières amours du côté de Musimax par la suite. Alors si le destin de Madame Benezra, vous intéresse, je ne saurais que trop vous conseiller, vous inviter à aller vous procurer ce livre-là, Sonia Benezra, je ne regrette presque rien. Et c'est signé, c'est une biographie signée Lise Ravary. J'aurais eu un ou deux livres peut-être à vous présenter encore, mais bon, ok, je vais les garder pour la semaine prochaine. Je voudrais remercier mes invités du jour, c'est-à-dire Huguette Roussel, ça veut dire aussi Marcellane Champoux, ça veut dire la formidable José Di Stasio, et voilà, et c'était Clotilde Seil au micro de Canal M à l'émission Des livres plein les oreilles. Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté de m'avoir accompagné une fois encore, et merci à vous d'être là. Bonne lecture mes amis, bon cocooning aussi avec José Di Stasio.